Radio Barque, donc, pour cette troisième partie, notre invité est Louis Privat, que je présentais comme fondateur et dirigeant actuel des Grands Buffets. Alors, les Grands Buffets, aujourd'hui, c'est... Bon, d'abord, c'est une enseigne, mais c'est beaucoup plus que ça, on va le voir en grattant un petit peu. Mais il serait peut-être intéressant quand même, même si la notoriété y est, de rappeler, de faire un petit historique. Il est toujours bon de savoir d'où l'on vient, et peut-être aussi, sans faire de l'autosatisfaction, de se retourner sur le trajet, la route parcourue. Monsieur Privat.
Ah oui, alors la route parcourue, elle est maintenant un petit peu longue, puisqu'elle démarre il y a 30 ans, lorsque il y eut l'appel à candidature de l'Espace de Liberté. Et, notre offre a été retenue par l'équipe à l'époque de Hubert Mouly, et nous avons été, lorsque nous avons lancé notre formule de buffet à volonté, nous étions les premiers en France à faire une offre en tant que restaurant indépendant de buffet à volonté. Et cette offre a eu un succès énorme, mais qui était principalement lié au succès de l'Espace de Liberté, tant le complexe était nécessaire pour l'équipement de ce territoire et correspondait à une attente du public, Narbonnais, mais aussi Perpignan, Carcassonne et Béziers. On a vu tout ce public affluer sur Narbonne et nous avons bénéficié d'un coup de projecteur magistral qui nous a immédiatement propulsé à un niveau d'activité impressionnant.
Oui, au démarrage, comme équipement, c'était un équipement municipal d'abord. Absolument. Avec une piscine et une patinoire, ce qui était assez nouveau, et bien entendu, à côté, les grands buffets. Ça ne s'appelait pas les grands buffets, d'ailleurs.
Nous avons démarré sous la dénomination Cafétéria Liberté, et au fil du temps, considérant que le public avait une attente particulière vers une prestation de qualité, nous avons enrichi cette formule de buffet à volonté, et puis c'était aussi un peu pour se démarquer d'une certaine concurrence qui arrivait, car d'autres restaurateurs ont compris à ce moment-là que cette formule de buffet à volonté pouvait avoir un succès et représenter un véritable marché. Et donc, pour se démarquer de ceux qui se lançaient dans ce type de formule, eh bien, nous avons enrichi au niveau de la qualité de notre offre pour progresser petit à petit et avec le public qui nous a accompagnés dans cette démarche aujourd'hui à arriver à une formule qui souhaite proposer au grand public, accessible à tous, une formule de qualité, un repas de fête et une approche luxueuse des arts de la table.
Et à quel moment, Louis Privat, passe-t-on de la Cafétéria Liberté à la formule actuelle ?
C'est lorsque nous avons compris que le rayonnement que nous avions était incompatible sur le secteur du tourisme avec ce type de dénomination. On voyait que la formule plaisait au public et un public de plus en plus éloigné. Notre rayonnement était sans cesse en progression. Mais comment imaginer qu'un guide touristique ou voire des journalistes puisse conseiller au public de s'arrêter à Narbonne pour une cafétéria? Donc cette terminologie qui avait été...
Le terme était réducteur pour
vous. Le terme était réducteur. Il avait été très efficace pour se positionner sur le marché de la restauration qui était l'emballement à cette époque-là de la consommation de restauration. Et c'était très sécurisant pour les gens parce que ça signifiait aussi un certain niveau de prix. Donc c'était très rassurant. Mais le fait de notre développement et de notre notoriété, avec cette dénomination, nous empêchait d'accéder à tout simplement un marché national que nous visions.
Et alors vous disiez, Louis Privat, vous avez cherché d'emblée à vous démarquer et vous avez créé un certain nombre de ce qu'on pourrait appeler des coups médiatiques, enfin des formules qui sortaient un petit peu de l'ordinaire. Alors dites-nous comment ces idées surgissent, puis comment vous les appliquez ensuite.
Mais je ne sais pas si on peut dénommer ça des coups médiatiques. C'est en fait une volonté constante d'enrichir notre formule et d'aller vers plus de qualité. Donc cette ligne de conduite nous a conduit à finalement analyser ce qui faisait des arts de la table et ce que le public attendait. Et on n'a pas hésité à partir un petit peu à contre-courant. On savait qu'il y avait une attente du public et on savait que l'offre n'y était pas. Donc en proposant faisant de plus en plus de qualité. Alors, ce que l'on peut dénommer comme des coûts médiatiques, effectivement, c'était de proposer le foie gras à volonté. C'était de proposer le homard à volonté. Donc ça a marqué les esprits. Voilà. Et nous avons, derrière, fait des campagnes pour vraiment le mettre en lumière. Donc, ça nous a positionné aux yeux du public comme étant un restaurant où on pouvait faire des repas de fête, parce que ça, c'est vraiment la ligne directrice. La table doit être une fête et le public chez nous doit retrouver ces repas d'antan, ces banquets d'antan qui commençaient par les fruits de mer, les homards, les foie gras, les rôtis. Et nous avons maintenant enrichi notre formule avec un plateau de fromage qui est vraiment une formule emblématique des tables françaises.
Alors, les 100 et quelques
les
fromages.
Les 100 fromages qui vont peut-être nous valoir prochainement, on ne dévoile pas tout, mais peut-être le titre par le Guinness et la reconnaissance du Guinness du plus grand plateau de fromage dans un restaurant au monde. Nous avons constitué
un
le
record
dossier.
Qui se profilerait.
Ah, écoutez, on peut évoquer dans tous les cas le dossier.
Et auparavant, même si l'expression n'est pas forcément appropriée, coût médiatique, mais enfin, c'est quand même, il s'agit de lancer des idées dont on va parler, ou faire du buzz, comme on dit maintenant. Mmh. À un moment, vous aviez aussi lancé une idée qui était totalement atypique dans la restauration, où en général on vend des bouteilles de vin très chères. Vous aviez voulu associer d'abord les viticulteurs et la viticulture du coin, de la Narbonnaise et d'ailleurs, en proposant le vin à prix coûtant. Et ensuite, même, on repartait avec la bouteille si on n'avait pas terminé.
Exactement. Alors ça, depuis toujours, j'ai été militant pour les vins de la région. Ça, c'était très important. Le premier restaurant que j'avais ouvert, qui n'était pas les grands buffets, nous avions déjà une carte strictement de vins de la région, parce que à cette époque-là, la notoriété était grandissante de nos vins et de nos produits, leur qualité, mais souffrait d'un véritable déficit de reconnaissance de la part du grand public, et surtout à l'extérieur de notre région. Donc là, j'ai voulu vraiment m'investir pour cette cause. Comme c'est le vin en restauration, hein, il est notoire qu'il est très cher et que les gens sont un petit peu frustrés parce qu'ils vont peut-être limiter leur consommation ou ne pas s'offrir les belles bouteilles ou les crus qui leur feraient envie. Eh bien, j'ai souhaité décomplexer complètement la consommation de vin. Donc, au-delà de présenter une carte strictement de vin du Languedoc-Roussillon à l'époque et aujourd'hui d'Occitanie, j'ai souhaité qu'il soit proposé au prix du caveau. Ça nous a valu très récemment un prix national qui nous a été décerné par le président du jury qui était Philippe Forbrac, meilleur sommelier du monde. Nous avons obtenu le prix de la plus belle carte des vins ouverts de France. Et hier encore, nous avons été reconnus par l'Académie d'Occitanie pour le travail que nous faisons sur la viticulture, mais pas que les vins d'ailleurs. Cet engagement de mettre en évidence les produits du terroir porte sur les vins avec un engagement fort, mais on le retrouve également sur les produits que nous offrons sur les buffets. La Méditerranée avec les huîtres du bassin de Thau, l'agneau de lait des Pyrénées, les canards du sud-ouest, les fromages également qui sont présents sur le plateau. Donc on attache beaucoup d'importance à se sourcer sur le plan régional et sur le plan local.
Mais c'est-à-dire que ce qu'on appelle maintenant les circuits courts, pour vous, il y a longtemps qu'ils sont courts, ces circuits.
Absolument, absolument. Avec un accent particulier aussi sur l'offre bio. Très tôt, nous avons proposé des vins bio. Alors, à l'époque où on était un petit peu perplexe sur la qualité de ces vins, aujourd'hui, on ne sait plus faire la différence entre un vin bio et un vin qui ne le serait pas. Par contre, le territoire l'a fait la différence, parce que ce type de culture est beaucoup moins agressif et on milite pour ça. Et depuis très longtemps, nous avons une bonne partie de notre carte qui propose des vins bio. Et des produits, on va trouver énormément de produits, toutes nos crudités, toutes nos garnitures, les poulets. Donc cette notion de terroir et également d'approche responsable sur les produits que nous proposons, nous l'intégrons déjà depuis pas mal de temps.
Et alors Louis Privat, donc de toutes ces péripéties et l'aboutissement aujourd'hui font que vous êtes devenu en quelque sorte un des grands acteurs économiques, touristiques de la Narbonnaise et bien au-delà, ce qui... On va y revenir peut-être un petit peu, ce qui implique aussi d'avoir des épaules larges et une certaine responsabilité. Mais je voudrais revenir sur l'histoire des fromages. Alors, on sait que la France est, paraît-il, le pays des fromages. D'ailleurs, Churchill ne disait-il pas, il faut se méfier d'un pays qui a plusieurs centaines de sortes de fromages. Sous-entendu, les gens ne sont jamais d'accord entre eux. Mais comment vous est venue cette idée-là? Parce que c'est quand même un petit peu original.
Le premier constat, c'est que nous étions en capacité de proposer un plateau de fromage extrêmement conséquent, parce qu'il faut avoir une fréquentation comme la nôtre pour pouvoir proposer un tel éventail. Mais surtout, j'étais un petit peu embarrassé par l'idée que cette idée pouvait germer auprès d'un groupe de restauration de Las Vegas, Shanghai ou Dubaï, et que un beau jour on voit un restaurant de ce type de pays annoncer qu'il détenait le plus grand plateau de fromage au monde dans un restaurant, alors que nous sommes le pays des fromages. Donc il y avait un défi à relever.
Et c'est comme ça que vous est venue cette idée ?
Absolument, absolument. Et c'est également aussi un argument qui est international. On voit bien que si d'autres peuvent s'y intéresser, eh bien il fallait à tout prix que ce soit un restaurant français. Et on a parlé du Guinness. Si nous obtenons cette consécration du Guinness, je considérerais que c'est pas les grands buffets, mais c'est la France qui a obtenu cette reconnaissance. Et bien sûr, un restaurant sur le territoire d'Occitanie et à Narbonne. Donc cette relation d'ancrage sur un territoire d'une telle offre, il me paraissait absolument nécessaire.
Ah oui, alors le restaurant au sans fromage, il fallait impérativement que cela fût Made in France, si je puis dire.
Comment voulez-vous que ce soit un autre restaurant on n'imagine pas Shanghai qui puisse
oui,
dire...
Ou Las Vegas.
Ou Las Vegas.
Là, ça serait du pur blasphème.
Voilà. Et puis, nous avions aussi les capacités de le faire. On a des compétences sur notre territoire.
Oui, parce que vous vous êtes attiré, enfin, les services de gens, d'un maître fromager, ça
absolument.
S'appelle comme ça.
Un meilleur ouvrier de France qui s'appelle Xavier Turé. On a recruté en interne un maître fromager, qui est d'ailleurs lui-même en train aujourd'hui de postuler pour le concours de meilleur ouvrier de France. Et puis nous avons un territoire qui s'y prête, ne serait-ce que les fromages d'Occitanie. Nous avons vraiment une possibilité de faire une sélection magnifique. Donc toutes les conditions étaient réunies pour que nous nous engagions. Mais c'est un travail qui a duré plusieurs années. Il s'est étalé sur 4 ans entre la conception, la modification des buffets, la recherche des fournisseurs ou des producteurs. C'est un travail qui est considérable, parce que à partir du moment où on installe cette offre, il faut pouvoir la maintenir d'une façon durable et en qualité.
Oui, en quantité et en qualité. Absolument. Oui, c'est voilà le défi. Et alors, parmi les dernières, alors trouvailles, originalités, il y a ce que vous appelez, Louis Privat, la tente d'apparat.
Ah oui, là aussi, c'est un projet qui a mis beaucoup de temps à apparaître. Nous avions une terrasse et je souhaitais que cette terrasse, on puisse l'utiliser l'hiver comme l'été. Donc on sait, les brasseries, les restaurants qui créent des terrasses couvertes avec des chauffages infrarouges au-dessus des tables. Et je voulais pas tomber dans ce type de code de décoration. Donc j'ai imaginé, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui est l'élément qui pourrait le plus rappeler une terrasse ou un extérieur? Eh bien, m'est venue l'idée de la tente. Et la tente, les références que nous avons des tentes les plus prestigieuses, eh bien, c'est sûrement le 18e ou le 17e siècle. Donc, je me suis raconté une histoire en me disant, tiens, imaginons que Louis XIV demande qu'on lui dresse une grande tente d'apparat pour recevoir sa cour et faire une fête magistrale. Et on est parti dans cette idée. On a créé un décor tout à fait baroque avec des chaises Louis XV, avec des miroirs en bois doré, avec des consoles. Et cet univers de tente, eh bien, on a la possibilité de l'ouvrir intégralement, y compris l'hiver, pour profiter des rayons de soleil. Donc on pourra manger dans cette tente, à l'abri. Nous avons un chauffage par le sol, nous avons un système de régulation de température.
Donc c'est du 4 saisons. C'est...
Ah, ça sera du 4 saisons. Et l'ambition est d'arriver à être en communication avec l'extérieur, donc une vraie terrasse couverte.
Hein, alors intéressant, ça ne sera pas les grandes eaux de Versailles, ça sera les grands buffets de Versailles.
Voilà, les grands buffets de Versailles. Alors moi je définis ce lieu comme étant un lieu un peu baroque parce qu'on n'est pas dans une reconstitution historique. C'est un clin d'œil, mais toujours avec en travaillant la qualité. Il s'agit de proposer au public un univers qui soit crédible. Donc on trouve du véritable mobilier ancien, les lustres ont été réalisés par le même artisan qui participe à la rénovation de Chambord. C'est les mêmes lustres.
Ah oui, vous voyez qu'on est dans, on reste dans le royal.
On reste dans le royal, mais surtout on reste dans le crédible, dans le très beau. Et la qualité.
Oui. Alors, je disais tout à l'heure, monsieur Privat, que quand on a justement, on est arrivé à avoir une telle notoriété, ça crée des émules, ça crée une certaine responsabilité. Et j'imagine qu'on vient vous demander des conseils ou que vous sentez des concurrents pointer, se profiler. Comment les choses se passent-elles ?
Les concurrents, certainement. Je crois que c'est un phénomène qui est classique et qui est normal dans notre profession et dans toutes les professions. Je crois que ce qui est le plus problématique, peut-être, c'est la concurrence un peu déloyale. On a vu arriver pas mal de restaurants sur le territoire qui s'appellent maintenant les grands buffets. Donc on essaie un petit peu de...
La marque n'est pas déposée.
La marque est déposée. Elle est déposée au plan européen, mais ça n'arrête pas, ça n'empêche pas certains d'essayer de surfer sur notre notoriété, notre réputation. Donc oui, on est assez... je suis personnellement assez souvent consulté, mais plus sur l'angle du tourisme que de la restauration, parce que sur le territoire, qu'il s'agisse de l'office de tourisme de la ville de Narbonne ou du Grand Narbonne, eh bien, il est logique que les acteurs, et je ne suis pas le seul, participent à cette réflexion sur le développement touristique.
Oui, c'est la moindre des choses, non ?
Je crois que les socioprofessionnels, comme on les désigne dans ces assemblées, ont leur mot à dire, effectivement, pour renseigner les élus sur leurs problèmes et sur leur vision du développement touristique d'un territoire.
Oui, parce qu'on a dit, certains ont dit souvent que Narbonne est un carrefour, et un carrefour, les gens ne font qu'y passer, ils ne s'arrêtent pas. Mais il semble que les grands buffets, ça soit devenu une destination, un but.
Oui, il y a eu plusieurs interprétations. La première, les grands buffets phagocytaient la clientèle narbonnaise au regard des autres restaurateurs, jusqu'au jour où le monde de la restauration a compris que notre clientèle venait de l'extérieur, elle ne venait pas siphonner leur potentiel, puisque la clientèle narbonnaise représente 3,5% de notre activité.
Pas plus.
Et le Grand Narbonne, 2,5% selon les périodes. Donc la clientèle de notre bassin de vie, c'est 5%. Et comme vous le rappeliez, nous... de l'avis des hôteliers et des hébergeurs, nous avons maintenant pris le statut de destination touristique, puisque les hôteliers déclarent qu'une partie de leur clientèle, ils la doivent au public qui vient et qui programme un repas au grand buffet et qui profite de faire un séjour, de découvrir la ville. On les rencontre au hall de Narbonne, chez nos confrères restaurateurs en ville, chez les commerçants. Donc ce statut-là, maintenant, nous est en fait attribué par les professionnels de l'hôtellerie.
Oui. Et alors, on s'aperçoit à propos du tourisme que, bien entendu, c'est devenu, je le disais, on peut le répéter, un des piliers essentiels aujourd'hui économiquement dans notre région. On s'aperçoit qu'à certains endroits, dans certaines villes, exemple Barcelone, on arrive à une sorte de ras-le-bol du tourisme, c'est-à-dire un moment trop c'est trop. Est-ce que ce phénomène-là, vous l'avez déjà, vous, ressenti ?
Je le ressens à l'extérieur, mais pas forcément à Narbonne. Je pense que Narbonne a une véritable vocation dans le domaine touristique, n'a pas exploité la totalité de son potentiel, que nous devons nous réunir nos moyens et nos forces pour nous propulser sur des marchés extérieurs, pour continuer à faire venir du public extérieur. Aujourd'hui, 50% de la clientèle des grands buffets vient de toutes les régions de France. L'Occitanie, dans sa totalité, représente 50%. Et dans les 50% donc, qui viennent de l'extérieur, nous voyons des Italiens, beaucoup d'Espagnols, mais il n'y a pas de hasard. Si nous voyons beaucoup d'Espagnols fréquenter les grands buffets, c'est parce qu'on a fait un travail très particulier sur le pays catalan pour se faire connaître. Et aujourd'hui, on voit qu'il est tout à fait possible, avec des arguments sérieux, et Dieu sait que Narbonne en a en matière de tourisme, à travers son espace monumental, ces arguments, que ce soit les territoires naturels, que ce soit le littoral ou que ce soit l'espace monumental de la ville, nous avons énormément d'arguments pour convaincre à l'extérieur. Je crois qu'il faut continuer cette démarche.
Oui. Alors pour vous, la création d'un office de tourisme communautaire est une bonne chose?
J'y participe et je considère que c'est une très bonne chose. Je pense qu'il faut analyser les phénomènes touristiques.
C'est-à-dire aller au-delà de la ville de Narbonne. Mais
le bon échelon est sûrement l'échelon de l'agglo, et il faut peut-être aller plus loin si on se projette sur des marchés plus lointains. Pour un Chinois, vous savez, l'écart qui sépare Carcassonne de Narbonne est minime pour eux. Et par contre, Carcassonne est un vrai argument dont Narbonne peut tout à fait se servir si on se positionne sur un marché international.
Oui, voilà, mais il va falloir conclure. Et vous aviez prouvé X fois, monsieur Privat, que vous cherchez toujours à avoir un coup d'avance, en quelque sorte, sans dévoiler peut-être des choses secrètes. On va conclure là-dessus. Quel est votre prochain coup d'avance?
Alors, il est en quelque sorte déjà un petit peu connu, parce qu'il y a quelques années, on a fait vraiment la une des médias parce que nous avions racheté la presse à canard en argent de la Tour d'Argent. C'est un monument historique de la Restauration. La Tour d'Argent est connue mondialement pour une recette particulière qui est le canard pressé, le canard au sang. Et cette presse à canard que j'ai achetée au nez à la barbe des Allemands, des Américains, des Qataris.
Aux enchères.
Aux enchères à Arcurial. Je l'ai préservée pour pouvoir organiser, et on le fera pas forcément cet hiver, mais l'an prochain, cette recette qui n'a jamais été proposée qu'en haute gastronomie ou dans les palaces, eh bien, on va la proposer. Ça sera une première mondiale, le canard au sang, qui sera proposé dans un restaurant grand public et accessible à tous. Donc voilà le projet qui m'anime actuellement. Mais pour ça, il faut agrandir l'espace, il faut encore déplacer des murs, il faut encore faire des travaux assez pharaoniques pour arriver à créer l'espace qui mettra en valeur cette offre.
Voilà, en tout cas, un projet prestigieux, vous l'avez souligné. Merci, monsieur Privat, Louis Privat, donc à la fois le fondateur, rappelons-le, et puis aujourd'hui le dirigeant de cet établissement qui est devenu, on peut le dire, prestigieux. Bientôt détrônera-t-il dans l'esprit des gens à la Tour d'Argent? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce fameux canard, tous les gastronomes doivent se le mettre dans un coin de leur mémoire et guetter le moment où vous le lancerez.
Voilà, et on l'annoncera, n'ayez crainte. Merci de m'avoir accueilli sur votre antenne, merci beaucoup.
Le prochain invité sera Alexandre T, responsable des vignerons indépendants audois, avec lequel nous évoquerons un autre pilier économique de la Narbonnaise. Cette fois-ci, ça sera la viticulture, même si on l'a légèrement évoqué aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis pour ce 7e Radio Barque, et à la semaine prochaine.